Pourquoi naître aujourd'hui? Pourquoi faire un enfant? Pourquoi engendrer aujourd'hui dans une situation mondiale, écologique, économique si difficile? Je vous ai déjà donné des réponses l'autre jour et je vais continuer aujourd'hui. Dans Genèse chapitre 1, verset 27, Dieu créa l'homme à son image et le créa à l'image de Dieu. Il créa l'homme et la femme. Donc nous voyons que Dieu a un projet merveilleux, c'est que l'homme ait une parfaite ressemblance en sainteté, en beauté à lui. Et il a le projet de faire une réussite de cet homme ou de cette femme. Et il les crée le même jour, en même temps. Regardons aussi le sujet de l'amour humain. Au chapitre 2, verset 24, c'est pourquoi l'homme quittera son père et sa mère et s'attachera à sa femme et deviendra une seule chair. Il a un projet grandiose, c'est que l'homme et la femme aient un amour considérable entre eux, un amour éternel et divin, comme il y a l'amour entre le Père, le Fils et l'Esprit Saint, au sein de la Trinité. Tout cela, c'est un plan d'amour et un plan de perfection. Chaque être est conçu en vue de ce plan. Et il ne naît pas pour avorter, pour rater sa vie, pour finir dans le mal ou être victime du mal. Donc, l'homme n'est pas fait pour être sujet à la maladie, à la mort, à la dispute, à la querelle. Malheureusement, tout cela est venu suite au péché d'Adam et Ève. Mais continuons. Il y a certainement des raisons pour lesquelles Dieu a voulu que l'homme soit beau. Pourquoi? Parce que Dieu est généreux, Dieu est miséricordieux. Il y a un plan de générosité. Il est infiniment bon et saint. Et il n'a pas voulu une petite chose pour les hommes. Il a voulu de grandes choses, à la taille de son être même, puisqu'il est saint, qu'il est grand, qu'il est infiniment bon et intelligent et parfait. Il a voulu des choses parfaites et belles pour ses créatures. Ainsi donc, nous ne pouvons pas sous-estimer Dieu et nous ne pouvons pas sous-estimer la dimension de la destinée humaine. Regardons le psaume 9. Verset 20. Lève-toi, Éternel, que l'homme ne triomphe pas. Lève-toi, Éternel, que l'homme ne triomphe pas. Qu'est-ce que ça veut dire dans ce psaume? C'est l'homme pécheur, l'homme qui est rempli d'orgueil, l'homme qui est sans amour pour les autres et qui n'a pas d'amour pour Dieu. C'est cet homme-là qui ne doit pas triompher. Mais au niveau de Dieu, l'homme peut triompher et dans sa gloire s'il mène une vie sainte comme son fils Jésus. S'il déteste le péché, s'il s'en repent et s'il il accepte Jésus dans sa vie. Et donc Dieu a maintenu son plan. En envoyant Jésus, Dieu a maintenu son plan malgré le drame du péché, malgré les conséquences de ce péché qui sont énormes sur cette terre. Dieu a maintenu son plan par la personne de son fils Jésus. Il veut la réussite de son plan et il veut un héritage pour l'homme, un héritage glorieux. Mais il ne veut pas que l'homme pécheur, l'homme qui est saisi par le mal et la vanité, réussisse. Prenons le psaume 8 et voyons ce que Dieu dit. « Éternel, notre Seigneur, que ton nom est magnifique sur toute la terre, ta majesté s'élève au-dessus des cieux, par la bouche des enfants. » Et de ceux qui sont à la mamelle, tu as fondé ta gloire pour confondre tes adversaires, pour imposer silence à l'ennemi au vindicatif. Donc l'orgueilleux, l'ennemi de Dieu, et l'ennemi des hommes, évidemment, doit un jour faire silence. Et les enfants ont cette particularité d'admirer la création de Dieu, de s'émerveiller. Et c'est eux qui proclament la grandeur de Dieu, puisque les orgueilleux ne veulent plus. Quand je contemple les cieux, ouvrage de tes mains, la lune et les étoiles que tu as créées, qu'est-ce que l'homme pour que tu te souviennes de lui? Donc, par ce souvenir de lui, c'est-à-dire que tu fasses un tel programme de choses magnifiques, que tu mettes alentour de lui des choses si merveilleuses, comme les oiseaux, les fleurs, les astres. Suite au confinement à Paris, j'entendais à la télévision un couple qui avait quitté la ville et qui s'était installé dans une petite ville de 10 000 habitants, en montagne, en France, et qui disait, voilà, maintenant nous entendons les oiseaux, nous pouvons aller nous promener, et nous n'entendons pas de voiture, de tram, de coups de klaxon, de sirène, et nous pouvons voir les étoiles. Quand nous étions petits, nous avons vu les étoiles, nous avons vu les oiseaux, mais pendant plus de 60 ans, nous n'avons pas eu ce bonheur. Donc, nous voyons bien que ces personnes veulent retourner à l'état que Dieu leur avait donné. Et au verset 5, psaume 8, verset 5, qu'est-ce que l'homme pour que tu te souviennes de lui? Le fils de l'homme pour que tu prennes garde à lui. Tu l'as fait de peu inférieur à Dieu, tu l'as couronné de gloire et de magnificence. Tu lui as donné la domination, c'est-à-dire la gestion, sur les œuvres de tes mains. Tu as mis tout sous ses pieds, et les brebis comme les bœufs, les animaux des champs, les oiseaux du ciel, les poissons de la mer, tout ce qui parcourt les sentiers des mers. Éternel notre Seigneur, que ton nom est magnifique sur toute la terre. Quand nous allons dans le livre d'Ecclésiaste, au chapitre 3, nous voyons que Dieu a mis un désir d'éternité dans le cœur de l'homme. Et pourquoi ? Dieu a un programme formidable pour nous. Pourquoi? Je l'ai toujours dit, je le répète, il est généreux et bon. Il est fidèle dans sa fidélité et sa générosité. Il l'a démontré en envoyant Jésus et en permettant que des hommes soient régénérés par le Saint-Esprit et vivent selon le cœur de Dieu. Ecclésiaste 3, 10 et 11. J'ai vu à quelle occupation Dieu soumet les fils de l'homme. Il fait toutes choses bonnes en son temps, mais il a mis dans leur cœur la pensée de l'éternité, bien que l'homme ne puisse pas saisir l'œuvre que Dieu fait, du commencement jusqu'à la fin. Nous pouvons contempler, nous pouvons admirer, mais nous ne pouvons pas tout comprendre. Qu'est-ce que nous pouvons comprendre? Bien, si nous prenons Romains, chapitre 1, nous pouvons comprendre des choses qui sont basiques, et c'est déjà bien, parce que beaucoup ne les ont pas, beaucoup ne les acceptent pas ou n'ont pas eu la chance qu'on leur enseigne. N'est-ce pas? C'est Romains, chapitre 1. La colère de Dieu, évidemment, Dieu n'est pas toujours content quand on se moque de lui. La colère de Dieu se révèle du ciel contre toute impiété, donc manque de foi, et toute injustice des hommes, manque de sainteté, qui retiennent injustement la vérité captive. Quelle vérité les hommes empêchent-ils d'être libres? Bien, c'est une vérité qui touche le cœur en contemplant la nature, mais qui est enfermée. Elle est enfermée par l'éducation, par les traditions. On étouffe le cœur des enfants. On étouffe ce qui est déposé par Dieu, ce désir de grandeur et de beauté. Et on en fait une vérité captive, c'est-à-dire on met des barreaux de fer, tradition, etc., idéologie, pouvoir, etc. Car ce qu'on peut connaître de Dieu est manifeste pour eux, Dieu le leur ayant fait connaître. En effet, les perfections invisibles de Dieu, sa puissance éternelle, sa divinité, sa personnalité divine, se voient comme à l'œil nu depuis la création du monde, quand elle les considère dans ses ouvrages. Ils sont donc inexcusables. Donc, nous voyons bien que Dieu a mis un langage à travers tout le créé, un langage international, le langage de la contemplation, le regard de l'admiration et le regard de la réception, de la méditation, de l'émerveillement et de l'action de grâce. Prenons le psaume 139, psaume 139, et voyons ce que dit le prophète David, prophète et roi. Après avoir longtemps souffert David comme homme qui avait été rejeté par son père, qui avait été diminué, bafoué et considéré comme un pou, il fit un jour la découverte, c'est plutôt Dieu qui le lui découvrit, il fit la découverte qu'il était aimé de Dieu et qu'il était merveilleux aux yeux de Dieu. Psaume 139. Éternel, tu me sondes et tu me connais, tu sais quand je m'assieds, quand je me lève, tu pénètres de loin ma pensée, tu sais quand je marche et quand je me couche, tu pénètres toutes mes voies, car la parole n'est pas encore sur ma langue, que déjà, Éternel, tu la connais entièrement. Tu m'entoures par derrière et par devant, tu mets ta main sur moi. Une science aussi merveilleuse est au-dessus de ma portée, elle est trop élevée pour que je puisse la saisir. Où irais-je loin de ton esprit? Où fuirais-je loin de ta face? Si je montais aux cieux, tu y es. Si je me couchais au séjour des morts, t'y voilà. Si je prenais les ailes de l'aurore et que j'aille habiter à l'extrémité de la mer, là aussi ta main me conduirait et ta droite me saisirait. Si je dis au moins les ténèbres, c'est-à-dire la nuit, me couvriront, la nuit devient lumière autour de moi. Même les ténèbres ne sont pas obscures pour toi. La nuit brille comme le jour et les ténèbres comme la lumière. C'est toi qui as formé mes reins, qui m'as tissé dans le sein de ma mère. Je te loue de ce que je suis une créature si merveilleuse. Tes œuvres sont admirables et mon âme le reconnaît bien. Mon corps n'était point caché devant toi lorsque j'étais fait dans un lieu secret, tissé dans les profondeurs de la terre. Quand je n'étais qu'une masse informe, donc avant 8 semaines, tes yeux me voyaient et sur ton livre étaient tous inscrits les jours qui m'étaient destinés avant qu'aucun d'eux n'existât. Que tes pensées, ô Dieu, me semblent impénétrables, que le nombre en est grand. Si je les compte, elles sont plus nombreuses que les grains de sable, je m'éveille et je suis encore avec toi. Voici donc une expérience de relation, de communication, de communion avec Dieu, une relation d'acceptation aussi. Accepter que Dieu a un plan merveilleux, un regard merveilleux sur lui, sur David et sur l'homme en général. Donc n'oublions pas, chers amis, nous sommes conçus pour être aimés par Dieu et pour aimer la vie que Dieu nous a donnée. Et pour recevoir de Dieu de l'instruction par la beauté de la création et la merveille de notre corps, de notre être, de notre psychisme. Nous avons un programme de perfectionnement, un programme d'admiration et de contemplation, et donc d'épanouissement, pour aboutir à l'action de grâce et à la communion avec Dieu. Pourquoi Jésus est-il venu ? Mais quand nous regardons dans Marc chapitre 3, nous savons bien que Jésus est venu pour rétablir la communion. Nous n'avons pas le privilège de pouvoir rétablir la communion avec Dieu. Aucune religion. Seul Jésus qui est humain et sans péché, qui n'a pas de barrière d'obstacle vis-à-vis de Dieu, seul lui peut nous établir une communion durable avec notre Père des cieux. C'est pourquoi Jésus a dit « Je suis chemin, la vérité et la vie. Celui qui vient à moi, je ne le rejetterai pas. Tous ceux que mon Père me donne, je ne les rejetterai pas. » Donc, voyons, Marc chapitre 3, verset 13. « Il monta ensuite sur la montagne, il appela ceux qu'il voulut, ils vinrent auprès de lui, il en établit 12 pour les avoir avec lui. » Le mot est koinonia, c'est-à-dire communion. Jésus a un programme de communion avec les hommes. Et ce programme de communion, c'est pour une communion éternelle. Ce n'est pas pour une communion épisodique, d'un amour caduc qui change suivant les saisons, suivant les opportunités, suivant les besoins, suivant les épreuves. Non, c'est un amour durable. Dieu est éternel dans ses sentiments. Dieu est fidèle et il est saint. Et donc, une relation avec Dieu est une relation durable, éternelle. Alors, je vous lis ce verset dans Jean chapitre 5, verset 21. « Comme le Père ressuscite les morts et donne la vie, ainsi le Fils donne la vie à qui il veut. » Donc, qui a donné la mort ? C'est le péché. Qui a donné la séparation éternelle avec Dieu ? Le péché. Qui a donné l'inconnaissance, l'absolue impossibilité de connaître Dieu ? C'est le péché. Pourtant, Dieu avait donné des moyens. Dieu a donné des moyens par la nature, etc., par la parole de Dieu, par la conscience de découvrir Dieu. Avant le péché, ces moyens étaient en mesure de nous faire connaître Dieu. Maintenant, à cause du péché, c'est des moyens caduques, périssables. Et il a fallu quelqu'un qui rétablisse, qui soit l'image de Dieu incarné, venu sur terre. Et ce fils qui donne la vie, c'est Jésus de Nazareth. Il donne la vie à qui il veut. Et si nous lisons Jean 5, 24, je vous le dis, celui qui écoute ma parole et qui croit à celui qui m'a envoyé a la vie éternelle et ne vient point en jugement. Il est passé de la mort à la vie. Donc, nous passons de la mort à la vie par cette personne sans péché, dont l'Esprit Saint remplit toutes les paroles. C'est un Esprit Saint présent à travers toutes les paroles de Jésus. Ce n'est pas comme les paroles d'hommes, où il y a bien et mal, plus souvent du mal que du bien. Regardons dans Jean chapitre 3, verset 34, « Celui que Dieu a envoyé dit les paroles de Dieu, parce que Dieu ne lui donne pas l'Esprit avec mesure. Le Père aime le Fils, il a remis toutes choses entre ses mains. Celui qui croit au Fils a la vie éternelle, celui qui ne croit pas au Fils ne verra point la vie. » Nous voyons bien que nous avons un passage, un chemin, une issue pour retrouver la communion avec Dieu et retrouver notre plan de perfectionnement, de réalisation, non pas par nous-mêmes, mais en Christ, en Jésus. Face à ce plan et face à toute cette position bienfaisante et bienveillante de Dieu, miséricordieuse, et cette position d'une grâce exceptionnelle, possible pour tous, à ceux qui veulent accepter Jésus, eh bien, il y a quelqu'un qui est opposé, c'est Satan. Satan a un autre plan. Il offre un plan d'orgueil et de destruction. Satan n'est pas quelqu'un de mythique. C'est un ange très puissant, c'est un archange qui avait la gloire, qui a été créé par amour, par Dieu, mais qui a, dans sa liberté souveraine, a choisi l'orgueil. Et il a choisi l'orgueil, c'est-à-dire être Dieu à ses propres yeux et être plus élevé que Dieu. Genèse chapitre 3, verset 5, « Dieu sait que le jour où vous en mangerez du fruit de l'arbre du bien et du mal, vos yeux s'ouvriront, vous serez comme des dieux, connaissant le bien et le mal. » Satan, qu'est-ce qu'il fait là? Il imagine du mal en Dieu, il imagine un complexe de supériorité, il imagine de la jalousie à l'égard de l'homme et de la femme, ses créatures, et il accuse Dieu d'être susceptible, complexé, devant une réalisation plénière de l'homme. Voilà, Satan propose une image défavorable de Dieu. Et la deuxième chose, il dit « Vous serez comme des dieux, connaissant le bien et le mal ». Mais Dieu n'avait donné que le bien à l'homme. Il lui avait donné comme possibilité que de connaître le bien. Donc, lorsque Dieu a créé l'homme à son image, Genèse 1, 27, c'était dans le bien, dans la sainteté de Christ. Donc, lorsque vous avez des enfants devant un écran de télévision, devant des smartphones, etc., des films, vous devez savoir que si on propose du mal à votre enfant, ça vient de Satan. Il ne faut enseigner et donner que des choses bonnes à vos enfants. Il ne faut pas mélanger le bien et le mal, parce que ça, c'est l'art de Satan. C'est la proposition de Satan, le bien et le mal. La deuxième chose, c'est que nous voyons au chapitre 3, verset 16, que la femme va enfanter dans la douleur, évidemment, à cause de la difficulté. La nature est déréglée par le péché, mais elle a aussi un psychisme déréglé. Ses désirs se porteront vers son mari, en hébreu ça veut dire pour le dominer. Et malheureusement, l'homme dominera sur elle. Donc un conflit, une dualité entre l'homme et la femme, alors que ce n'était pas dans le plan de Dieu. Ça, ce sont les dégâts du programme diabolique, satanique, où l'homme est appelé à connaître le bien et le mal et à les pratiquer. Donc, dans le couple, on va pratiquer le conflit de pouvoir. Ensuite, au chapitre 4, verset 1, nous voyons que Ève dit, lorsqu'elle met Caïn au monde, elle dit « J'ai formé un homme avec l'aide de l'Éternel ». Elle ne dit pas « Nous avons reçu un enfant de la part de l'Éternel ». Nous avons formé un enfant, un homme avec l'aide de l'Éternel. Non, je. L'appropriation, l'égocentrisme, l'égoïsme, et bien sûr, nous voyons que ce fils qui a été adulé, qui a été quelque part aussi manipulé, eh bien, devient quelqu'un d'égoïste et il tue son frère. Donc, au chapitre 4, nous voyons que Caïn, au verset 8, tue son frère. Caïn se jeta sur son frère Abel et le tua. Verset 9, l'Éternel dit à Caïn, « Où est ton frère Abel ?» Il répondit, « Je ne sais pas, suis-je le gardien de mon frère ?» Est-ce que nous sommes le gardien de notre frère sur la route lorsque nous roulons ? Est-ce que nous roulons de manière responsable pour n'écraser personne ? Est-ce que quand nous faisons des sports, nous faisons en sorte de ne pas blesser quelqu'un ? Lorsque nous sommes sur les chantiers, au travail, nous faisons en sorte de respecter autrui et de respecter les consignes de sécurité. Est-ce que, d'une part comme de l'autre, nous avons envie de toujours créer des bombes et des armes pour détruire les hommes ? Ou est-ce que nous voulons un jour supprimer tout cela ? Nous avons notre choix. Nous pouvons penser que nous ne sommes pas les gardiens de notre frère, nous n'avons pas d'intérêt à les aimer, nous ne voulons pas les aimer, nous les méprisons, ou soit nous les aimons, nous les considérons comme nos égaux, et ils sont respectables et aimables, dignes d'être aimés. Donc Satan a un plan d'orgueil, un plan où l'homme doit faire l'expérimentation du bien et du mal, et il va s'y perdre d'ailleurs. Et puis dans cette expérience, l'homme va s'approprier l'enfant ou la femme, ensuite un des enfants va devenir ennemi de l'autre enfant, et il y a division qui s'installe entre l'homme et la femme, entre les enfants. Donc la venue de Christ sur la terre est pour rétablir la communion entre les humains et entre Dieu et l'homme. Et il est évident que Jésus n'est pas venu apporter la guerre. Luc chapitre 10, versets 27 et 28. Luc 10, versets 27 et 28. Un docteur de la loi se leva et dit à Jésus pour l'éprouver, « Maître, que dois-je faire pour hériter la vie éternelle ?» Jésus lui dit, « Qu'est-il écrit dans la loi ?» Donc dans la Bible, « Qui lis-tu » Il répondit, « Tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme, de toute ta force, de toute ta pensée, et ton prochain comme toi-même. » Tu as bien répondu, lui dit Jésus, « Fais cela et tu vivras. » Mais lui, voulant se justifier, dit à Jésus, « Qui est mon prochain ?» Et voilà, nous avons affaire à Caïn. Voilà un homme qui paraît excellent, qui paraît religieux comme Caïn, et voilà, « Qui est mon prochain ?» Donc, il n'a pas pu, alors qu'il est déjà un adulte, il n'a pas pu apprendre à savoir que son semblable en face de lui est son frère, sa sœur, et mérite considération, respect, aide et assistance. Et justice. Donc nous voyons bien que Jésus est venu pour rétablir la vérité dans le cœur de cet homme et rappeler ce que Dieu avait déjà demandé dans Deutéronome 14 siècles avant. Est-ce que Jésus va perdre son temps en faisant cela? Est-ce qu'il va échouer? Est-ce que Jésus va être finalement dans l'échec? Puisqu'il a proposé une réconciliation avec Dieu et une réconciliation avec le prochain. On pourrait dire, oui, c'est une aventure qui a mal tourné, et il finit crucifié, et puis il est disparu. Il y a des illuminés qui ont créé une église, mais tout en compte fait, cette église n'a rien prouvé. Elle a fait des choses bonnes et des choses mauvaises. Donc l'histoire n'a rien prouvé à propos de Jésus. Mais si nous regardons plus à ce qui est dit dans l'Écriture, si nous regardons plus exactement à ce qui est dit de la mort et de la résurrection de Jésus, nous voyons que Jésus est mort pour porter ce poison, ce péché sur lui. Lui qui était sans péché, il s'est fait péché pour que, en étant crucifié, ce péché soit crucifié. Rappelez-vous cette image que j'ai déjà utilisée quelquefois, quand M. Pasteur a voulu sauver des milliers de vies humaines en France, il a introduit la maladie sur le cheval, la maladie de la rage. Ce qu'a fait le cheval, il a produit dans son sang un anticorps et la rage n'a fait aucun effet sur lui. Ensuite, M. Pasteur a repris ce produit, cet anticorps, et a vacciné les hommes. Les hommes ont pu être sauvés grâce à ce vaccin. Qu'est-ce qu'il faut en retirer de cette image? C'est que le cheval a pris la maladie et lui l'a vaincu. Eh bien, de la même façon, Christ ne peut pas rester dans la mort. Il s'est offert en sacrifice pour payer notre dette, pour payer le châtiment que nous méritons, nous pécheurs, toutes les horreurs qui se font sur cette terre, dans nos cœurs et dans les vies, dans la politique, dans tout. Et il est ressuscité. Tout en payant cette dette, en subissant la colère de Dieu, il a pris aussi ce péché. Cet effroyable mal qui est rentré dans le cœur de l'homme et qui détraque tout. Ce poison qui tue l'humanité, ce poison qui mène les gens en enfer, il l'a porté, comme le cheval a porté le virus de la mort, de la rage. Eh bien, il l'a porté et il est ressuscité. En ressuscitant, il nous donne sa vie. Il nous donne l'Esprit Saint. En ressuscitant, il nous donne le fruit de son combat, de sa passion et de sa résurrection. C'est une victoire, finalement, sa mort et sa résurrection. Donc, personnellement, j'ai reçu Jésus dans ma vie et j'ai reçu son pardon. Mais j'ai connu mon péché et je sais qu'il l'a porté, qu'il a souffert pour moi et qu'il ne le méritait pas, mais il l'a choisi librement de le porter. Tout comme il a porté votre péché. Et en portant ce péché, et en ressuscitant, il démontre que ce péché est brisé, est mort, est crucifié. Il démontre qu'il peut nous donner la capacité de vivre éternellement. Si nous acceptons son sacrifice à la croix, si nous acceptons de reconnaître notre péché et qu'il l'a pris à la croix, si nous acceptons son pardon et le Saint-Esprit qu'il veut nous donner, nous sommes dans la vie éternelle et la marque du péché d'Adam et Ève a été une fois pour toutes crucifiée et ensevelie. Ensevelie avec Jésus dans le tombeau et nous sommes ressuscités en Christ. Le mystère pascal est notre condition. Donc je ne m'attacherai pas à décrire les jours heureux et les jours malheureux du christianisme, de la chrétienté. Ou à partir du IVe siècle, la politique romaine s'est mêlée de rechercher à s'accaparer de la chrétienté. Et d'une certaine manière a réussi sur certains points, et sur d'autres points a toujours échoué. Les hommes ont toujours cherché à utiliser la foi des autres hommes pour assouvir leurs besoins de pouvoir. Ils ont toujours utilisé. Mais ce n'est pas pour ça que le sacrifice de Jésus-Christ en soi est dénaturé. L'histoire ne démontre pas que le sacrifice de Christ et sa résurrection sont mauvais. C'est simplement que l'histoire montre que les humains ne peuvent pas déformer la parole de Dieu et ne peuvent pas déformer la nature du sacrifice de Christ et de sa résurrection. que les hommes ne peuvent pas dénaturer les motifs de sa venue sur terre. Donc Jésus est venu pour donner la vie. Donc un enfant qui naît aujourd'hui, s'il est éduqué dans l'amour de la vérité et du bien, et que l'on veille sur lui, il peut trouver la vie éternelle en entendant les enseignements de Jésus. Lorsqu'on lui explique la mort et la résurrection de Jésus, l'enfant comprend que Jésus l'a aimé. Il comprend que la porte du ciel est ouverte pour lui et que le péché n'a pas d'autorité. L'enfant peut comprendre qu'il peut confier son cœur, qui parfois n'est pas propre, n'est pas bon. L'enfant le sait, le reconnaît à certains moments. Eh bien, il peut admettre que Dieu est pardon, miséricorde. Prenons le psaume 32. Un enfant a toujours du cœur. Et si on éduque l'enfant dans le sens de comprendre le bien et le mal, de ne pas aimer le mal, d'aimer le bien, et qu'on lui apprend que son cœur est parfois pécheur, et qu'il exerce le péché parfois avec plaisir, cet enfant peut se rendre compte qu'à un moment donné, que son bonheur est de se faire pardonner. Psaume 32. Heureux celui à qui la transgression est remise, à qui le péché est pardonné. Heureux l'homme à qui l'Éternel n'impute pas l'iniquité, dans l'esprit duquel il n'y a point de fraude. Tant que je me suis tué, mes os se consumaient, je gémissais toute la journée, car nuit et jour, ta main s'appesantissait sur moi. Ma vigueur n'était plus que sécheresse comme celle de l'été. Je t'ai fait connaître mon péché, je n'ai pas caché mon iniquité, j'ai dit j'avouerai mes transgressions à l'Éternel, et tu as effacé la peine de mon péché. Ainsi, mes amis, il faut apprendre aux enfants à confesser leurs péchés à Dieu. Ça s'apprend tout petit, dans leur cœur, dans leur champ, tout seul, dans la nature, avec papa et maman parfois, pas forcément dans un confessionnal avec un prêtre. Il n'y a pas besoin que l'enfant apprenne à le faire seul en face de Dieu, sans intermédiaire. Dieu entend, c'est lui qui a créé l'oreille. Dieu voit, c'est lui qui a créé tous les yeux. Il est capable de tout savoir, de tout comprendre. Bien sûr que les parents ont un rôle de guide pour perfectionner cette sensibilité au péché, mais aussi à la grâce, au pardon que Dieu fait. Le psaume 32 est essentiel. Prenons le psaume 51. Comment un enfant pourrait-il, à certains moments, quand il a fait vraiment des vilaines choses, pourrait-il se sentir heureux? Il y a en lui quelque chose. S'il a une conscience normale, il a en lui quelque chose qui s'est un peu brisé, qui est abîmé. Et nous voyons dans le psaume 51 que, au verset 19, les sacrifices qui sont agréables à Dieu, c'est un esprit brisé. Ô Dieu, tu ne dédaignes pas un cœur contrit, brisé. Donc, Dieu est sensible à l'âme de quelqu'un qui reconnaît, qui sent, qui a honte de son péché. Et l'enfant doit apprendre à avoir honte du mal qu'il pense, qu'il imagine, qu'il dit, qu'il fait. Ou avoir honte du bien qu'il aurait pu faire et qu'il n'a pas fait. Et voici ce que dit aussi David dans le même psaume 51, verset 3. Ô Dieu, aie pitié de moi dans ta bonté. Selon ta grande miséricorde, efface mes transgressions. Lave-moi complètement de mon iniquité. Purifie-moi de mon péché. Car je reconnais mes transgressions et mon péché constamment devant moi. J'ai péché contre toi seul. J'ai fait ce qui est mal à tes yeux, en sorte que tu seras juste dans ta sentence, sans reproche dans ton jugement. Je suis né dans l'iniquité. Ma mère m'a conçu dans le péché. Évidemment, puisqu'on descend tous d'Adam et Ève. Mais tu veux que la vérité soit au fond du cœur. Fais donc pénétrer la sagesse au-dedans de moi. Purifie-moi avec l'hysope, je serai pur. Lave-moi, je serai plus blanc que la neige. Annonce-moi l'allégresse et la joie, et les os que tu as brisés se réjouiront. Crée, ô Dieu, crée en moi un cœur pur. Renouvelle en moi un esprit bien disposé. Ne me rejette pas loin de ton salut, de ta face. Ne me retire pas ton Esprit Saint. Donc, ce sont des expériences profondes que l'enfant peut faire. L'enfant peut être déjà pétri de cette véritable vie spirituelle s'il voit ses parents vivre de cette manière. Les parents ayant une profonde honnêteté vis-à-vis de Dieu, sachant se repentir quand ils font quelque chose de mal, demander pardon à qui ils ont offensé, demander pardon à Dieu aussi, et demander la grâce du pardon à Dieu. Sans en douter, évidemment. Donc, l'enfant voit si les parents ont un véritable berger vivant dans leur cœur, un véritable directeur de conscience. L'enfant voit si ses parents sont régénérés, s'ils sont travaillés par le Saint-Esprit ou n'y sont pas. Comment un enfant peut-il apprendre ce qu'est une vie chrétienne et une vie bonne, bienfaisante, apaisante et qui progresse s'il n'a pas de modèle? La disparition des modèles dans notre société, dans les familles, a fait que les enfants sont malheureux et désolés. Certains enfants deviennent très agressifs, destructeurs. Et cela donne une société qui se détruit par elle-même. Nous devons retourner à l'image que Dieu nous a donnée. Nous devons retourner au respect de l'époux et de l'épouse. Nous devons retourner à l'amour du bien et à la haine du mal. Nous devons retourner à l'admiration de la nature et des bienfaits de Dieu. Nous devons retourner à l'action de grâce, à la contemplation de Jésus, à son offre merveilleuse d'amour à la croix, où il a porté le poison de nos âmes, le péché, où il a été crucifié pour que ce péché soit crucifié. Nous devons admirer la résurrection de Jésus, qui est l'approbation de Dieu et qui est l'échec du péché, qui est la réussite, l'approbation de la miséricorde infinie de Dieu en Jésus-Christ pour le pécheur. Donc l'enfant est né pour quelque chose de magnifique. Cela vaut la peine de mettre des enfants au monde. Mais sachons bien, nous devons être des modèles pour ces enfants, selon Jésus-Christ, dans la foi, une foi sincère et véritable en Jésus-Christ, dans une nouvelle naissance, une régénération réelle. La vie chrétienne n'est pas une amélioration de la vie ancienne, ce n'est pas un vieil habit sur lequel on met une pièce de tissu nouveau, ce n'est pas une vieille outre dans laquelle on met du vin nouveau. Nous devons carrément être transformés totalement par Jésus. Dans la voiture, si le moteur est pourri, on sort tout le moteur, on en met un nouveau. Eh bien, ayant un cœur nouveau en Jésus-Christ, pour être ce que nous devons être en face de nos enfants. Oui, les enfants méritent de vivre aujourd'hui, si nous sommes ce que nous devons être aussi. Amen.